Bonjour à tous et merci d'être à l'écoute de Calade. Au sommaire de notre édition, le procès de l'inaction climatique pour le mouvement non-violent ANV COP 21. Tout d'abord, les 6 militants membres du groupe local Villefranche-Beaujolais-Saône paraîtront de nouveau en jugement, poursuivis en appel par l'État, le 29 octobre prochain. Puis, présentation à l'hôtel de ville des festivités du Beaujolais Nouveau 2019, en présence de ses partenaires et en conclusion, Christelle Orcel, directrice de la Maison du Patrimoine, revient pour nous sur la collaboration de la nouvelle exposition Beaujolais Art, Homme et Territoire de la Révolution à nos jours de la Maison du Patrimoine avec le musée Paul Dini à Villefranche. Calade, le journal. Ça y est, c'est fait. Les trottinettes sont maintenant des moyens de transport à part entière et soumis à ce titre à des règles. Vendredi 25 octobre, un décret a été publié au journal officiel pour encadrer leur usage. Le texte appelé à entrer en vigueur en partie dès samedi et en partie au 1er juillet 2020 modifie le code de la route et s'adresse aux usagers, aux collectivités territoriales et aux forces d'ordre. En ville, les trottinettes devront rester sur les pistes cyclables lorsqu'elles existent. Rouler sur le trottoir sera en principe interdit. Les engins de déplacement personnel motorisés ne peuvent transporter qu'un seul conducteur âgé d'au moins 12 ans, prévoit le décret qui interdit à ce conducteur de pousser ou tracter une charge ou un véhicule ou de se faire remorquer par un véhicule. Le texte rend passible d'une amende de jusqu'à 1500 euros quiconque roule avec une trottinette motorisée conçue pour dépasser la vitesse de 25 km par heure. Le décret prévoit aussi les équipements devant être portés par les conducteurs et ces véhicules. Le port de casque et d'un gilet réfléchissant devient ainsi obligatoire dans le cas exceptionnel où l'usage de ce type de véhicule est autorisé sur route hors agglomération. Et ben voilà, l'usage des trottinettes désormais encadré par le code de la route. Le procès de l'inaction climatique pour le mouvement non-violent ANV COP 21. Les 6 militants membres du groupe local Villefranche-Beaujolais-Saône paraîtront de nouveau en jugement, poursuivis en appel par l'État le 29 octobre prochain suite à l'action hashtag décrochons Macron. Un retour tout de suite sur l'affaire avec deux des deux prévenus.
Hélène Lacroix-Baudrillon.
Nicolas Guérini. Oui, donc Décrochons Macron est une campagne qui a été lancée au mois de février, qui a commencé mi-février, avec un certain nombre de décrochages à Paris et dans d'autres villes. Et nous, on s'y est mis ici, nous, assez rapidement, puisque début mars, on a effectué le décrochage de la mairie de Jassan.
Donc décrochage, comme vous voulez dire, à Jassan, et qui vous a valu, effectivement, ce procès. Vous n'êtes pas le seul, évidemment, plusieurs procès également. Alors, petit rappel, peut-être de la peine que vous avez eue.
Alors pour 5 sur 6 d'entre nous, nous avons eu 500 euros avec sursis et le sixième, 250 euros ferme.
Dans un acte, on peut dire, de désobéissance civile, c'est comme ça que vous le voyez, et on vous nomme aujourd'hui des activistes. C'est bien ça, Nicolas ?
Oui, c'est bien ça. On nous nomme des activistes parce qu'on se met en action. On se met en action pour essayer de faire bouger les choses. C'est des gens qui se mettent en action pour une cause, ce qu'on fait. Et nous, on a fait le choix de la désobéissance civile, non violente, pour mener un certain nombre d'actions, pour alerter. C'est essentiellement ça que l'on s'attache à faire dans ces actions-là.
Alors, donc, en fait, des personnes, tout simplement, des individus qui, à un moment donné, se sont dit stop, aujourd'hui, il faut effectivement, tout simplement y aller, et quitte à prendre des risques, finalement, puisque vous passez devant un tribunal, notamment, vous serez donc pour la deuxième fois à Lyon, ce qui est relativement assez intimidant.
Oui, en effet. Après, c'est l'urgence qui nous fait agir. C'est vraiment ce côté... Alors, on fait des marches climat, on a participé à plein d'organisations de marches climat, on travaille aussi avec les élus. Mais l'urgence fait qu'en fait, on ne peut plus attendre et on ne peut plus rester sur ce rythme-là. Il faut vraiment que nos politiques se mettent en action rapidement. Donc, du coup, nous, on a pris des risques pour ça, en effet.
On est conduit, j'allais dire, presque contraint de mener ce type d'action, en tout cas des actions de désobéissance civile, parce que comme le dit Hélène, toutes les discussions qu'on a depuis des années, qu'on essaye de mettre en place localement et au niveau national avec les politiques, avec les gens qui nous gouvernent, avec les gens qui sont capables et en mesure de prendre des décisions, en tout cas c'est ce qu'on attend d'eux, et ben tout ça, on se rend compte que ça ne fonctionne pas, en tout cas que ça ne fait pas avancer les choses et qu'on traîne, on traîne, on traîne, les sujets sont trop nombreux pour qu'on les cite tous, mais depuis le glyphosate jusqu'à l'histoire de la montagne d'or, en Amérique du Sud. Et tout le temps, on revient systématiquement sur les sujets. Donc aujourd'hui, nous, on fait ce choix-là. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que le dernier jugement qui a eu lieu à Lyon et qui a donné une relaxe pour deux activistes décrocheurs. Et ce qui est intéressant, c'est que le juge, dans les attendus de sa décision, en fait, vienne légitimer ces actions en disant oui, semble-t-il, ces citoyens ont voté, sont allés, comme dit Hélène, marcher pour le climat, ont mis en place des groupes de travail, ont essayé de participer au maximum de choses, et les choses n'avancent toujours pas. Donc c'est un nouveau mode d'expression, un autre mode d'expression, de revendication. Encore une fois, l'urgence, effectivement, elle est là. Et donc c'est une façon, oui, on prend des risques juridiques en le faisant, mais c'est une façon de venir alerter, de dire à tous les citoyens, il faut vraiment se bouger et faire en sorte que nos politiques prennent des décisions le plus rapidement possible et n'attendent plus comme ça.
Revenons effectivement donc au 29 octobre. Deuxième rendez-vous avec le tribunal, on explique un petit peu peut-être ce qui va s'y passer.
Sur le côté justice, en fait, on refait un procès. Donc le procureur a fait appel de la décision du juge pour le premier procès du 28 mai. Et donc, a priori, donc, il estime que les amendes qu'on a prises ce jour-là, de 500 euros avec sursis et de 250 fermes pour l'un d'entre nous, ne sont pas suffisantes. Et donc, on recommence tout un procès.
On redémarre à zéro, c'est le principe de cette procédure d'appel, donc c'est-à-dire le jugement. Donc nous ne sommes plus des condamnés, nous sommes redevenus des prévenus. Nous avons été condamnés pendant 10 jours, pendant le temps de l'appel, et puis une fois qu'on a su que le procureur faisait appel, on est redevenus des simples prévenus, les peines disparaissant en même temps que l'appel. Donc on repart à zéro devant une cour d'appel, donc avec des magistrats différents qui sont a priori plus expérimentés, qui travaillent plus sur le fond des dossiers. Probablement, donc, mais en tout cas de notre côté on le prépare de la même façon avec une mobilisation citoyenne peut-être un petit peu moins forte qu'au début, mais c'est aussi important pour nous parce que c'est le premier jugement en appel et on sent bien qu'il y a une espèce de petite bataille en ce moment suite à la décision de relax de Lyon. Quelques jours après, nous, on a eu une date pour notre jugement d'appel, alors que notre avocat a je ne sais combien de clients, il nous l'a redit et ça nous a été confirmé par d'autres avocats lyonnais, qui attendent des dates en cours d'appel plutôt pour fin 2020. Donc ça veut dire qu'il y a quand même une volonté de la justice de venir peut-être briser cet élan un peu positif qu'a donné ce jugement lyonnais de relax et de vite revenir à des sanctions et aussi pour nous décourager, hein, je pense, également pour décourager pas mal d'activités. Et ça fonctionne, même des amendes de 500 euros, puisqu'à Paris, le jugement était 500 euros d'amende ferme pour l'ensemble des activistes. Eh bien, 500 euros d'amende ferme, oui, ça en décourage certains, parce qu'on n'a pas forcément les moyens et qu'on se dit, waouh, où est-ce que ça va s'arrêter ? Donc, semble-t-il, l'État, la justice, a plutôt fait le choix de nous sanctionner de façon... Voilà, un peu forte par rapport à la valeur, en tout cas, du larcin. Et c'est vrai que les choses s'accélèrent et on a l'impression qu'ils veulent venir, derrière ce jugement de Lyon, vite avoir des premières décisions d'appel assez fortes. Mais on verra bien, on continue de penser que la justice peut être indépendante, en tout cas à son indépendance. Le jugement lyonnais en est un exemple. Donc on continue à faire confiance à la justice et à penser que même en appel, on peut, nous aussi, peut-être obtenir un jugement de relax.
Poursuivi en appel par l'État, le procès aura lieu donc le mardi 29 octobre au tribunal de Lyon. Pour les 6 militants membres du groupe local Villefranche-Beaujolais-Saône, décrocheurs du portrait Macron, les activistes vous donnent rendez-vous à 11h sur le parvis du tribunal de la cour d'appel de Lyon. Présentation de l'hôtel de ville des festivités du Beaujolais Nouveau 2019 pour le samedi 23 novembre à Villefranche, en présence de ses partenaires, Beaujolais Runners et son rendez-vous sportif, le Marathon du Beaujolais, le Théâtre de Villefranche, le festival consacré aux artistes émergents de la scène des musiques actuelles, les Nouvelles Voix en Beaujolais, le Village des Beaujolais, Place des Arts, à l'initiative des caves coopératives du Beaujolais et du Lyonnais, et bien sûr, son traditionnel spectacle Sons et Lumières de la mise en Perse sur le parvis de l'hôtel de ville. Avec nous Thomas Ravier, maire de Villefranche.
C'est un moment très important parce qu'il marque une saison importante pour Villefranche qui est la capitale du Beaujolais. C'est un moment important parce que vous avez des dizaines de milliers de personnes qui vont se réunir dans les rues, dans les salles de spectacle, sur le bitume pour courir ou sur la place des Arts pour se retrouver. C'est donc un moment de cohésion aussi sociale dans une ville, dans un territoire. Et puis c'est un moment important pour un troisième volet qui est l'attractivité de notre territoire. On attire énormément de gens qui viennent bien au-delà de la région. Ça nous permet de faire découvrir Villefranche et le Beaujolais. Donc un moment agréable, un moment de cohésion, puis un moment d'attractivité de notre territoire.
Oui, alors plus que l'attractivité également, on va parler aussi de l'attractivité peut-être aussi économique, car c'est dans la région, la production du vignoble, bien évidemment, est une source très importante.
La promotion effectivement du vignoble, c'est une participation modeste mais importante néanmoins à la vie de ce vignoble, à sa vie économique. Le marathon aussi, hein, quand vous avez 18 000 coureurs qui viennent des 5 continents, de 65 pays, qui consomment sur place, qui sont susceptibles d'y revenir, c'est important. Les Nouvelles Voies est devenu un vrai beau festival de musique actuelle également, qui draine beaucoup de gens qui viennent aussi de l'extérieur. Donc on est effectivement dans de l'activité économique pendant ces quelques jours, mais aussi de l'activité économique tout le reste de l'année avec ce qui se fait en souterrain ou par rebond à travers ces événements.
Serait-ce que les nuitées d'hôtellerie, les restaurateurs
Oui, je peux vous assurer, nous on veut accueillir des gens là, on s'est déjà pris il y a 2 mois, tout est réservé pour la plupart du temps depuis un an, donc oui, c'est effectivement pour le secteur de l'hôtellerie, de la restauration, une aubaine, et puis après, c'est ce que je disais, par effet domino dans les jours qui suivent, c'est une participation plus globale à l'économie générale de notre secteur.
C'est un beau label lorsque vous allez, par exemple, un petit peu de partout, finalement, ce que ce marathon, enfin, pas forcément que le marathon, mais toutes les festivités.
Oui, aujourd'hui, vraiment, le marathon et les festivités autour du Beaujolais Nouveau, on a deux grands moments dans l'année, les conscrits et cette période-là. Et c'est vrai que quand on se déplace à l'extérieur, que ce soit à 150 km ou des fois même dans nos villes jumelles ou un petit peu plus loin en France, c'est les deux images qu'ils ont de notre territoire, quoi. Les conscrits et cette fête de Beaujolais Nouveau. Donc c'est une belle vitrine pour nous, à nous d'allier à la fois la tradition et la modernité et d'essayer sans cesse de renouveler ces opérations en les améliorant, en les perfectionnant pour les rendre encore plus belles.
Le Beaujolais Nouveau s'invite. Le samedi 23 novembre à Villefranche, une dégustation du primeur Place des Arts et des activités tout au long de la journée et pour votre soirée. Demandez le programme villefranche.net. Et pour conclure cette édition, nous recevons Christelle Orcel, elle est directrice de la Maison du Patrimoine. Elle revient pour nous sur la collaboration avec le musée Paul Dini à Villefranche sur la nouvelle exposition Beaujolais Art, Hommes et Territoires de la Révolution à nos jours.
Alors pour nous, en fait, c'était une participation inédite, puisqu'en fait le musée Dini nous a invités, dans le cadre de l'année inaugurale du label Pays d'Art et d'Histoire, nous a invités à croiser nos regards, notre regard à nous avec des fonds photographiques, dont les plus anciens remontent au milieu du 19e siècle, et puis bien sûr le regard historien de l'art du musée Dini. Donc en fait l'idée, c'était de notre point de vue de montrer comment le territoire a été façonné depuis la Révolution française par des hommes et des femmes, pour certains célèbres en leur temps et parfois mais oubliés ensuite, ou qui sont restés dans la lumière et qui ont voilà, une postérité assurée, et puis aussi parler des anonymes, hommes et femmes, donc qu'ils soient artisans, ouvriers, viticulteurs, puisqu'en fait, si on ne pense peut-être pas très souvent, mais finalement, c'est de se dire que, par exemple, les paysages, qui sont une marque très importante du pays Beaujolais, bien finalement, ces paysages, ils nous ont été transmis par des générations, ils ont été travaillés,
façonnés,
par des générations. Et c'est cela aussi qu'on essaye d'expliquer, tout en gardant aussi une ouverture sur l'extérieur. Hein, c'est-à-dire, le propos, ce n'était pas de mettre le Beaujolais sous une cloche, mais au contraire, de montrer aussi les liens, l'ouverture vers l'extérieur, et par exemple avec des figures comme Victor Vermorel, montrer en quoi finalement cet homme très cosmopolite qui faisait de très nombreux voyages à l'étranger, et bien comment il s'est nourri finalement, notamment sur le plan scientifique mais aussi commercial, comment il se nourrit de ces échanges, et du coup voilà, d'être sur une notion de territoire au pluriel, c'est-à-dire le Beaujolais en pleine lumière grâce à l'exposition, mais aussi d'autres territoires avec lesquels les hommes et les femmes ont tissé des liens.
Donc ce qui veut dire qu'effectivement, il y a deux véritables anonymes.
Hein, voilà, tout à fait. Voilà, le propos, c'est aussi de montrer alors des anonymes que l'on peut resituer dans un contexte historique, par exemple des charpentiers de l'usine Vermorel, pendant la Première Guerre mondiale, par exemple, la fabrication de munitions, la participation à l'effort de guerre, hein, que ce soit par des femmes ou par des hommes, mais aussi On a aussi prêté des affiches publicitaires, par exemple de l'entreprise Blédine, et où du coup, là, ce sont des figures dont on ne peut pas retracer l'histoire, contrairement aux ouvriers, par exemple, des usines, mais qui sont pour autant des figures qui ont marqué en fait l'imaginaire, même au-delà du Beaujolais, puisque par exemple, les affiches publicitaires de Blédine, elles ont marqué des générations entières de Français.
L'exposition Beaujolais Art, Hommes et Territoires de la Révolution à nos jours au musée Paul Dini à Villefranche jusqu'en février prochain. Fin de notre édition. N'oubliez pas toutes les informations locales et régionales en continu sur Calade, notre page Facebook. Très bonne continuation sur Calade. Hé, souriez, c'est vendredi.